Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, première partie, chapitre 1er, deuxième sous-chapitre. Acquérir de l'expérience et s'appuyer sur l'observation est autre chose que faire des expériences et faire des observations. Le reproche général que j'adresserai aux définitions qui précèdent, c'est d'avoir donné au mot un sens trop circonscrit en ne tenant compte que de l'art de l'investigation au lieu d'envisager en même temps l'observation et l'expérience comme les deux termes extrêmes du raisonnement expérimental. Aussi voyons-nous ces définitions manquer de clarté et de généralité. Je pense donc que pour donner à la définition toute son utilité et toute sa valeur, il faut distinguer ce qui appartient au procédé d'investigation employé pour obtenir les faits de ce qui appartient au procédé intellectuel qui les met en œuvre et en fait à la fois le point d'appui et le critérium de la méthode expérimentale. Dans la langue française, le mot « expérience » au singulier signifie d'une manière générale et abstraite l'instruction acquise par l'usage de la vie. Quand on applique à un médecin le mot « expérience » pris au singulier, il exprime l'instruction qu'il a acquise par l'exercice de la médecine. Il en est de même pour les autres professions, et c'est dans ce sens que l'on dit qu'un homme a acquis de l'expérience, qu'il a de l'expérience. Ensuite, on a donné par extension et dans un sens concret le nom d'expérience, au pluriel, aux faits qui nous fournissent cette instruction expérimentale des choses. Le mot « observation » au singulier, dans son acception générale et abstraite, signifie la constatation exacte d'un fait à l'aide de moyens d'investigation et d'études appropriées à cette constatation. Par extension, et dans un sens concret, on a donné aussi le nom d'observation au fait constaté, et c'est dans ce sens que l'on dit observation médicale, observation astronomique, etc. Quand on parle d'une manière concrète et quand on dit faire des expériences ou faire des observations, cela signifie qu'on se livre à l'investigation et à la recherche, que l'on tente des essais, des épreuves, dans le but d'acquérir des faits dont l'esprit, à l'aide du raisonnement, pourra tirer une connaissance ou une instruction. Quand on parle d'une manière abstraite, et quand on dit s'appuyer sur l'observation et acquérir de l'expérience, cela signifie que l'observation est le point d'appui de l'esprit qui raisonne, et l'expérience le point d'appui de l'esprit qui conclut, ou mieux encore, le fruit d'un raisonnement juste appliqué à l'interprétation des faits. D'où il suit que l'on peut acquérir de l'expérience sans faire des expériences. Par cela seul qu'on raisonne convenablement sur les faits bien établis, de même que l'on peut faire des expériences et des observations sans acquérir de l'expérience, si l'on se borne à la constatation des faits. L'observation est donc ce qui montre les faits. L'expérience est ce qui instruit sur les faits et ce qui donne de l'expérience relativement à une chose. Mais comme cette instruction ne peut arriver que par une comparaison et un jugement, c'est-à-dire par suite d'un raisonnement, il en résulte que l'homme seul est capable d'acquérir de l'expérience et de se perfectionner par elle. L'expérience, dit Goethe, corrige l'homme chaque jour. Mais c'est parce qu'il raisonne juste et expérimentalement sur ce qu'il observe. Sans cela, il ne se corrigerait pas. L'homme qui a perdu la raison, l'aliéné, ne s'instruit plus par l'expérience. Il ne raisonne plus expérimentalement. L'expérience est donc le privilège de la raison. À l'homme seul appartient de vérifier ses pensées, de les ordonner. À l'homme seul appartient de corriger, de rectifier, d'améliorer, de perfectionner et de pouvoir ainsi tous les jours se rendre plus habile, plus sage et plus heureux. Pour l'homme seul, enfin, existe un art suprême, dont tous les arts les plus vantés ne sont que les instruments et l'ouvrage, l'art de la raison, le raisonnement. Nous donnerons au mot expérience, en médecine expérimentale, le même sens général qu'il conserve partout. Le savant s'instruit chaque jour par l'expérience. Par elle, il corrige incessamment ses idées scientifiques, ses théories, les rectifie pour les mettre en harmonie avec un nombre de faits de plus en plus grand et pour approcher ainsi de plus en plus de la vérité. On peut s'instruire, c'est-à-dire acquérir de l'expérience sur ce qui nous entoure, de deux manières, empiriquement et expérimentalement. Il y a d'abord une sorte d'instruction ou d'expérience inconsciente et empirique que l'on obtient par la pratique de chaque chose. Mais cette connaissance que l'on acquiert ainsi n'en est pas moins nécessairement accompagnée d'un raisonnement expérimental vague que l'on se fait sans s'en rendre compte et par suite duquel on rapproche les faits afin de porter sur eux un jugement. L'expérience peut donc s'acquérir par un raisonnement empirique et inconscient. Mais cette marche obscure et spontanée de l'esprit a été érigée par le savant en une méthode claire et raisonnée qui procède alors plus rapidement et d'une manière consciente vers un but déterminé. Telle est la méthode expérimentale dans les sciences d'après laquelle l'expérience est toujours acquise en vertu d'un raisonnement précis établi sur une idée qu'a fait naître l'observation et que contrôle l'expérience. En effet, il y a dans toute connaissance expérimentale trois phases. Observation faite, comparaison établie et jugement motivé. La méthode expérimentale ne fait pas autre chose que porter un jugement sur les faits qui nous entourent à l'aide d'un critérium qui n'est lui-même qu'un autre fait disposé de façon à contrôler le jugement et à donner l'expérience. Prise dans ce sens général, l'expérience est l'unique source des connaissances humaines. L'esprit n'a en lui-même que le sentiment d'une relation nécessaire dans les choses, mais il ne peut connaître la forme de cette relation que par l'expérience. Il y aura donc deux choses à considérer dans la méthode expérimentale. Premièrement, l'art d'obtenir des faits exacts au moyen d'une investigation rigoureuse. Deuxièmement, l'art de les mettre en œuvre au moyen d'un raisonnement expérimental afin d'en faire ressortir la connaissance de la loi des phénomènes. Nous avons dit que le raisonnement expérimental s'exerce toujours et nécessairement sur deux faits à la fois. L'un qui lui sert de point de départ, l'observation, l'autre qui lui sert de conclusion ou de contrôle, l'expérience. Toutefois, ce n'est en quelque sorte que comme abstraction logique et en raison de la place qu'ils occupent qu'on peut distinguer dans le raisonnement le fait observation du fait expérience. Mais en dehors du raisonnement expérimental, l'observation et l'expérience n'existent plus dans le sens abstrait qui précède. Il n'y a dans l'une comme dans l'autre que des faits concrets qu'il s'agit d'obtenir par des procédés d'investigation exacts et rigoureux. Nous verrons plus loin que l'investigateur doit être lui-même distingué en observateur et en expérimentateur. Non, suivant qu'il est actif ou passif dans la production des phénomènes, mais suivant qu'il agit ou non sur eux pour s'en rendre maître.